Margaux, Aubryon, Ikem sont quelques-uns des vins les plus prestigieux de la région de Bordeaux, en particulier de la rive gauche. Pour nous en parler aujourd'hui, François Surgé, caviste, œnologue, producteur. Après avoir évoqué les terroirs et caractéristiques de cette région, il s'attardera sur le fameux classement établi en 1855 sous l'impulsion de Napoléon III. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour François.
Bonjour Philippe.
Alors raconte-nous un petit peu ce que tu peux nous dire de la région bordelaise puisque tu as fait tes études là-bas et que tu connais très très bien les domaines de cette région.
Déjà dans les premiers siècles, on en parle très vivement avec la découverte notamment d'ozone qui s'est installé donc à Saint-Émilion.
Au 4e siècle après Jésus-Christ.
Au 4e siècle, bien sûr. Mais aussi, le plus intéressant, je dirais que c'est à partir du 11e, 12e siècle, avec la prise, je dirais, d'Aquitaine par le roi d'Angleterre, avec le mariage avec Aliénor d'Aquitaine. Exactement.
Henri Plantagenet avec Aliénor d'Aquitaine.
Exactement, sur ce fameux mariage qui a fait perdre la région d'Aquitaine à la France. Il a fallu attendre quand même quelques années, quelques siècles, pour pouvoir la récupérer à partir de 1453. 1453, la date en fait de la dernière bataille de la guerre de Cent Ans, qui a eu lieu d'ailleurs dans une ville qui s'appelle Castillon-la-Bataille. Ça porte son nom encore aujourd'hui. Donc cette région n'a fait que et cessé d'évoluer. Charlemagne en a beaucoup parlé. Les rois aussi, bien sûr, que ce soit Louis XIV, Louis XV. D'ailleurs, Louis XIII avait présenté le Saint-Émilion dans toutes les ambassades qu'ils ouvraient dans tous les autres pays. Et ce qui fait que ça reste le vin par excellence qui est connu à travers le monde.
Alors qu'est-ce qui fait justement que Bordeaux est un tel succès ? Quels sont finalement les facteurs clés de succès de la région ?
Alors, avant d'en arriver là, je pense qu'il faudrait planter le décor. Il faudrait d'abord imaginer comment la région bordelaise est faite. Au niveau commerce, déjà, avec la Gironde, qui est très accessible par l'océan. Et on arrive directement sur la Dordogne et la Garonne. Donc, quand on regarde un petit peu de visu la région de Bordeaux, on s'aperçoit que la rive gauche de la Garonne est très bien située contre l'océan, mais avec une petite forêt qui est très appréciée, qui apporte de la buée sur ces régions, qui est le Médoc, surtout, le Haut-Médoc, la région des Graves, jusqu'au Sauternais, c'est-à-dire vraiment au sud, je dirais, du Bordelais. Une autre appellation très importante, on va la diviser en trois, donc cette fameuse appellation qui est l'appellation des Entre-deux-Mers. Là, on va y retrouver en fait une grande capacité de fabriquer des blancs à l'intérieur de l'Entre-deux-Mers, mais aussi on a un groupe de côtes qui est quand même assez fabuleux, qui va de Graves-de-Vert, au tout début, au nord, jusque dans l'est, avec Sainte-Foy-de-Bordeaux.
Entre-deux-mers, parce qu'entre la Garonne et la Dordogne.
Exactement, tout à fait. C'est pour ça qu'on l'appelle l'entre-deux-mers. Vous avez des situations géographiques dans cette appellation qui sont assez intéressantes. On aura l'occasion d'y revenir. En revanche, vous avez une autre appellation qui est très importante, puisque je vous avais dit qu'elle se divisait en trois appellations importantes, qui est la fameuse rive droite. La fameuse rive droite. Là, on va retrouver en fait ce fameux Saint-Émilion, le Pomerol, mais aussi le groupe des côtes avec les Blayes, bien sûr, les Bourgs, à ne pas oublier, le Fronsac et les canons de Fronsac. Voilà, les côtes de Castillon en font partie aussi, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est toute la partie gauche. On va commencer par le Médoc. Alors, le Médoc, il est arrosé d'une multitude de petits châteaux, les uns à côté des autres. Là, on va trouver une concentration de crus bourgeois, anciennement les crus paysans. Mais c'est vrai qu'à partir des années 30, des années ajustables, même après-guerre, crus paysans, ma foi, c'est pas très noble. Donc, on a appelé ces fameux crus les crus bourgeois. Donc, crus bourgeois, grands crus bourgeois et grands crus bourgeois exceptionnels. Vous en connaissez certainement de ces crus. Évidemment, aujourd'hui, de moins en moins, vous retrouvez sur les étiquettes cette appellation, tout simplement parce qu'elle est remplacée par l'appellation noble de Bordeaux. Ensuite, vous avez dans cette appellation les sols. les sols qui sont de plus en plus graveleux. Plus on va descendre, plus ça va être graveleux. Donc là, on était dans le Médoc. On va descendre dans le Haut-Médoc. Et là, on va retrouver en fait des villages et des villes qui sont très connus. Là où vous allez retrouver, par exemple, Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, Margaux. Bon, j'en oublie peut-être, mais on y reviendra tout à l'heure. Et toutes ces appellations, c'est là où on va retrouver les grands crus classés de 1855. Au sud encore, vous avez la région de Graves. Alors, la région de Graves, là où vous allez retrouver, en fait, la fameuse appellation de Pessac-Léognan, mais ça, c'est quelque chose de relativement récent, c'est les années 80, hein, l'appellation Pessac-Léognan. Avant, c'était l'appellation de Graves. Donc, Pessac-Léognan, c'est l'appellation aujourd'hui qui a tendance à apporter une marque de qualité sur la région de Graves. Et là, on va retrouver, en fait, un fameux grand cru classé de 1855 qui s'appelle le château
Aubryon.
Aubryon. Donc, le château Aubryon qui a été un des premiers à être classé. Et donc, après toute cette appellation des Graves, vous avez une appellation qui s'appelle le Sauternais avec les Barsacs. Sauternes, Barsacs, là, on va trouver en fait une panoplie de vins complètement différents. Puissance en argile, des terrains qui sont fort drainés, avec une capacité à élever des blancs tout à fait fabuleux. À élever des blancs avec de la muscadelle, avec des sémillons, des choses comme ça. Et on va obtenir, en fait, des vins qui vont être sucrés.
Des blancs liquoreux, donc.
Des fameux blancs liquoreux. On aura peut-être l'occasion de revenir sur ces blancs après. Et donc là, on va parler maintenant, en fait, de ces sous-sols. Ben, plus vous allez descendre, et plus ces sous-sols vont être graveleux, avec de la grave. C'est pour ça, d'ailleurs, que la région de Graves s'appelle la Grave. Donc, cette espèce de cailloux calcaires, qui sont à la présence incroyable, parce que si vous allez dans cette région, vous allez voir que les vignobles sont tapissés de ces cailloux. Et c'est là où on va retrouver, en fait, des vins qui donnent beaucoup, mais vraiment beaucoup de caractère. Donc, principalement sur la longueur de bouche. Et puis, évidemment, avec le sol, on ne peut pas parler de cette région sans parler du climat, qui est lui-même en fait un climat océanique et tempéré. Donc, ça veut dire tout simplement des hivers assez doux et des étés mais hyper chauds, enfin souvent très très chauds, et des automnes ensoleillés, un petit peu style été indien. Et donc, avec les brumes maritimes, plus cette espèce de petite forêt concassée qui se retrouve dans toute cette appellation, vous allez retrouver des buées qui sont très intéressantes, qui permettent de rafraîchir la baie, et ce qui fait que quand on vendange en automne, on vendange avec une certaine fraîcheur. Le raisin va garder cette fraîcheur jusqu'au chai. Donc, je pense que c'est aussi un endroit qui est particulier, le Bordeaux, parce qu'on va y travailler des cépages, mais pas une multitude de cépages comme dans certaines régions, ou pas quelques un ou un cépage seulement pour le rouge, par exemple en Bourgogne, on va utiliser que le pinot noir. Là, en revanche, on va utiliser au moins 4-5 cépages différents. J'imagine que tu les connais, Philippe.
Oui, bien sûr. Cabernet Sauvignon.
Oui, c'en est un.
Le Merlot.
C'en est un autre.
Le Cabernet Franc.
C'en est, oui, bien sûr.
Le Malbec.
Oui, bien sûr.
Et le Petit Verdot.
Et le Petit Verdot. La spécificité, du Petit Verdot, c'est...
C'est une bonne question.
C'est une petite baie qui apporte beaucoup d'acidité. Voilà. Donc, on va s'en servir sur les années chaudes pour pouvoir un petit peu apporter plus d'acidité. Et pour les blancs, on va avoir 3 cépages dominants.
Le sémillon.
Oui.
Le sauvignon.
Oui.
Et la muscadelle.
Parfait. J'ai rien à t'apprendre. Voilà. Après, bien sûr, le travail de la vigne reste quelque chose de commun. Les vignes sont les unes à côté des autres, avec des séparations qui sont un peu communes à toutes les appellations. Mais aujourd'hui, donc là, on va avoir sur la rive gauche des spécificités bien précises. Le fameux classement de 1855 pour cette appellation. Alors, pourquoi on a oublié la rive droite? Pourquoi on a oublié Entre-deux-Mers? Tout simplement parce que ça s'est fait avec les négociants de Bordeaux, à qui appartenaient ces fameux grands châteaux, déjà. Et aussi... avec les propriétaires, les négociants qui s'occupaient bien sûr de vendre ces châteaux, mais aussi la préfecture de Bordeaux. Donc ces trois dénominateurs ont fait qu'ils ont décidé, après une multitude de dégustations, et puis à force de déguster, ils se sont tombés d'accord sur des châteaux bien précis, comme par exemple le château Lafitte. la Fitz Rothschild, le château La Tour pour les Pauillac, mais le château Margaux pour la région de Margaux. Et là, on va se retrouver avec un premier grand cru classé. C'est-à-dire que là, c'est une sommité. On va dire que c'est le premium, c'est le prestige. Et c'est avec ça qu'on va gagner, en fait, nos galons à travers le monde. On va gagner, et ça, c'était très, très fort et bien, bien calculé. On va gagner en à la fois, surtout en qualité, mais aussi en...
En aura.
Exactement. Et c'est là où on s'est aperçu que les vins français avaient vraiment des qualités tout à fait exceptionnelles, contrairement à tout ce qui se présentait à cette époque. Le classement date de 1855. Il l'avait préparé déjà depuis quelques années. Hein. C'est sous Napoléon III, je crois, d'ailleurs.
Tout à fait. Hein. Oui.
Et ce classement, donc, résulte sur 5 catégories différentes. Donc, premier grand cru classé, deuxième grand cru classé. À chaque fois, vous aurez sur la bouteille, mais ça, vous l'avez déjà vu, comme par exemple, si vous prenez une bouteille de Aubryon, la bouteille d'Aubryon, c'est marqué premier grand cru classé, donc de grave. D'accord ?
Donc, on peut dire finalement que ce classement de 1855 est le point de départ de la premiumisation des vins de Bordeaux et faire en sorte que les grands vins de Bordeaux vont devenir ce qu'ils sont.
Tout à fait. Avant, même 400 ans avant ou 500 ans avant, le vin de Bordeaux n'avait jamais eu ces grandes qualités-là. Il a fallu attendre vraiment à partir du 16e et 17e siècle pour commencer à avoir des vins de qualité dans cette région. Et là, ces qualités qu'on avait avant, c'était... on avait gardé cette particularité anglaise de faire un peu du vin clair, ce qu'on appelle le clairet, qu'un rouge qui est fort agréable, qui est clair en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle le clairet, et qui était un petit peu rafraîchi et qu'on servait vraiment...
Un vin de tous les jours.
Tout à fait.
Alors pour en venir au classement de 1855, tu as parlé tout à l'heure de la classification premier grand cru, deuxième grand cru, etc. Qu'est-ce qui fait finalement qu'un château était jugé premier grand cru et un autre deuxième? Est-ce que c'était suite à une dégustation? Est-ce que c'était plus politique?
Ça reste un grand mystère. Il y a à la fois les dégustations. Donc, quand on abuse de dégustation, on peut peut-être dire des choses qui ne sont pas raisonnées, aussi raisonnées que si on n'avait pas bu, d'une part. Mais je pense que c'était vraiment, à cette époque, un petit peu politique. On avait peut-être promis à ces gens de les mettre deuxième, puis passeront un jour premier. Donc, sauf qu'à la fin, le truc était intouchable. Donc, mais je pense
que ça n'a pas été beaucoup révisé d'ailleurs, ce classement.
Il n'a jamais été révisé. En tout cas, si, pour un, je crois.
On y vient. En 73, oui, les premiers crus ont été.
Avec un seul, c'est le fameux Mouton Rothschild.
D'accord.
C'est le seul qui a été révisé, enfin qui est devenu premier grand classé. Sinon, personne ne bouge. Et en fait, on se retrouve avec beaucoup de deuxièmes grands classés dans ces régions, ce qui est assez drôle d'ailleurs. Beaucoup de deuxièmes grands classés, des troisièmes, des quatrièmes et des cinquièmes grands crus. Donc c'est vrai que cette élection entre guillemets de château avec ce fameux classement, il s'est fait de par rapport à la valeur marchande du produit, je pense. Je pense que c'était plus par rapport à ça. Parce que si vous aviez un produit de qualité tel qu'un Lafite, qui était très concentré à cette époque, qui avait des effluves tout à fait extraordinaires de fruits très très mûrs, il est clair que si on y passait derrière un Pauillac un petit peu plus léger, tout simplement, eh ben, lui, on le mettait plus, vous voyez, sur deuxième, troisième ou quatrième, plutôt que sur le premier. Le premier, les Pauillac, c'est là où vous allez retrouver le plus de premiers grands crus classés. Il faut le savoir, hein. C'est là où il y a le plus de premiers grands crus classés.
3 sur 5, j'ai vu.
Exactement, tout à fait. Et là, c'est vraiment... c'est l'appellation qui veut que ce soit un petit peu comme ça. C'est une appellation assez particulière pour connaître un petit peu Pauillac. Vous savez qu'à une époque, il y a une commune qui est juste à côté, qui s'appelle Saint-Estèphe. Ils avaient le choix. Ils auraient pu avoir l'appellation... Quelqu'un qui était sur Saint-Estèphe pouvait avoir l'appellation Pauillac. Ces fameux classements ont perturbé un petit peu le milieu du vin. D'autres, ça... Évidemment, fâché énormément de gens. Historiquement parlant, il y a eu quand même un petit peu de bagarre autour de ça. Il y a un livre qui s'appelle 1855, qui est assez bien expliqué d'ailleurs, qui explique un petit peu le rythme que ça avait pris. C'est-à-dire que c'est pas spécifique à l'année 1855, mais ça avait déjà commencé un petit peu avant. Et il y avait tellement de batailles entre les producteurs et les châteaux que ça a mis du temps à se faire. Mais c'était déjà programmé bien avant.
Donc pour revenir sur la rive gauche, donc on a parlé du classement de 1855 pour finalement la région du Haut-Médoc principalement, mais on a également le classement de 1855 dans le Sauternay.
Tout à fait. Le Sauternay n'est pas passé au travers. Ils sont allés jusqu'au Sauternay et ils ont classé un premier grand cru classé, mais je crois qu'il y en a eu plusieurs. Notamment, donc, on a eu le château d'Yquem, bien sûr.
Hein. Quel premier cru ?
Qui est le premier cru. Le premier cru. Et après, vous avez des premiers grands crus. Alors là, c'est un petit peu flou. Les premiers grands crus, vous avez Château Guiraud, vous en avez quand même quelques autres. Notamment Cigala-Rabot.
Cigala-Rabot,
ouais, tout à fait. C'est un des vins que j'aime beaucoup, d'ailleurs.
J'ai noté, d'ailleurs, sur les premiers crus, il y en a 9, dont effectivement ceux que tu as cités. Mais beaucoup sont sur la commune, en fait, de Beaume.
Oui. C'est vraiment très, très, très bien situé, parce que, en fait, le terroir est là. Le terroir du blanc, il est vraiment situé à cet endroit bien précis, et ce qui fait que c'est pour ça que là, on va retrouver les meilleurs sauternes. C'est surtout un endroit qui est tellement bien protégé, et il est balayé aussi par des vents océaniques, et ce qui fait qu'il se retrouve à être facilement pris par ce fameux microbe qui vient se mettre sur le grain de raisin.
Ce fameux champignon.
Et on a tout de suite cette réaction sur le grain. Pas tous les ans, bien sûr, ça va de soi, mais très fréquemment. Et c'est vrai que ce parasite apporte suffisamment de pourriture, c'est-à-dire vient réduire le grain et donne une concentration de sucre très, très, très importante.
Donc, est-ce qu'on peut dire que finalement, le microclimat du Sauternay rend la pourriture noble ?
Il n'y a pas que dans le Sauternay.
D'accord.
Il y a d'autres endroits, notamment dans les Bergerac, où il y a cette réaction aussi. Je pense quand même que... Bon, la légende veut que... C'est un des maréchaux de Napoléon. Quand il est rentré de campagne, en fait, il est rentré un petit peu plus tard et personne n'avait vendangé. Et il s'est aperçu qu'il y avait le grain qui était pourri, entre guillemets, avec cette pourriture. Et il a dit, tant pis, on va faire le vin quand même. Et ils ont fait... ils ont découvert apparemment, à ce moment-là, le vin de Sauternes.
D'accord, c'est comme ça qu'en fait est née la légende.
C'est comme ça qu'est née la légende, oui, tout à fait.
Donc il y a aussi dans l'appellation Sauternes les vins de Barsac.
Alors les vins de Barsac, Sauternes-Barsac, c'est souvent allié. En
d'accord.
Fait,
hein.
Prenez par exemple Seduiro, des vins comme ça, sont sur Barsac ou d'autres sont sur Barsac et Sauternes. Donc souvent les deux, souvent sur les deux appellations. Barsac, mais là par contre on n'a pas de premier grand classé de Barsac. D'accord ? C'est seulement le premier grand classé de Sauternes.
Parmi toutes ces pépites, finalement, ou ces stars de la rive gauche, quel est ton meilleur souvenir de dégustation de ces grands vins, de ces très grands vins ?
Alors, juste avant, parce que là, je vais vous faire baver un petit peu par rapport à ces dégustations, par rapport à l'appellation, je vais vous dire un petit peu le ressenti que j'ai.
Les caractéristiques.
Les caractéristiques sur des appellations. Si on prend, par exemple, le Saint-Julien... Beaucoup de gens aiment le Saint-Julien. Les filles adorent le Saint-Julien. Et les filles aiment beaucoup le Pauillac aussi. Donc, elles aiment le côté un peu musclé. Mais le Saint-Julien, ça reste un vin relativement souple, très fruité, avec de la puissance, avec un corset assez rond en finale. Mais c'est surtout propre à la dégustation des Hauts-Médocs. Très important. Après, vous avez juste le Saint-Estèphe. Alors, le Saint-Estèphe, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. D'ailleurs, Saint-Estèphe. Est-ce que tu peux me citer le premier grand cru classé de Saint-Estèphe ?
Alors ça, c'est une colle parce qu'il n'y en a pas, je crois.
Exact. Et les Saint-Estèphe, par contre, là, c'est de la finesse. C'est souple, c'est rond, c'est vineux, c'est corsé, fruité, bien sûr. C'est solide et c'est surtout très élégant. Après, vous avez le Pauillac. Alors, le Pauillac, c'est un petit peu le papa. Hein. C'est un petit peu très structuré, avec beaucoup de corps, avec une puissance assez importante, avec beaucoup de volume, avec un aspect vineux aussi très marqué, mais aussi très aromatique. Et puis après, bien sûr, vous avez le Margaux. Alors, le Margaux, si vous voulez faire plaisir à une femme lors d'un dîner, sortez un Château Margaux si vous en avez bien sûr les moyens, ou une appellation Margaux, c'est toujours très, très sympa. C'est élégant, c'est fin, c'est
génial. Premier grand cru, le Château Margaux.
Ah oui, le Château Margaux, c'est un premier grand cru, mais après, vous avez quand même les autres. Vous avez les deuxièmes grands crus classés de Margaux, comme
Giscourt, Kirwan.
Notamment, exactement, oui. Tous ces vins-là, en fait, tous ces beaux châteaux. Et vous allez voir que, en fait, c'est élégant, c'est fin, c'est généreux, c'est framboisé. Très souvent, l'arôme de framboise ressort dans les dégustations de Margaux. C'est pour ça que, moi, j'ai très souvent ouvert un Margaux pour faire plaisir, hein, ça va de soi. Ouais. Mais c'est aussi avec des arômes de rose, c'est assez floral, c'est très velouté, c'est suave. Après, vous avez bien sûr, pour finir, les Pessac Léognan. Alors, les Pessac Léognan, en règle générale, je crois savoir d'ailleurs que ça reste ton appellation préférée.
J'adore les Pessac.
Ouais. Les Graves, eux, sont charnus, ils sont nerveux, ils sont francs, et surtout une très belle longueur de bouche. Ce qui est là, vous voyez, sur cinq communes, cinq appellations, cinq terroirs, j'ai des choses différentes à dire. Et maintenant, je vais vous parler répondre à la question que tu m'as posée tout à l'heure. Les dégustations mémorables que j'ai pu faire, certes, c'est l'année 82. C'est vrai. Parce que c'est c'est mon année de référence et c'est surtout l'année où on m'a ouvert le plus de bouteilles pour mes dégustations. Ce qui fait que je suis vraiment un homme comblé là-dessus. Ça, c'est vrai.
C'est bien resté ancré.
Ah oui. L'année 82, c'est une des années les plus aujourd'hui que j'arrive encore à reconnaître. Attention, parce qu'il est venu se greffer des arômes un peu de café, de chocolat très marqués sur ces vins que je n'avais pas en dégustation à cette époque. Ce qui fait que aujourd'hui, j'arriverai peut-être un peu moins à les reconnaître qu'avant. Mais l'année 82 reste une année fabuleuse. La plus belle dégustation que j'ai faite, c'est un Carbonieux 1928. J'ai été scotché, d'abord parce que c'était le plus vieux vin que j'avais bu, dans ma carrière à cette époque. J'ai bu un petit peu plus loin après. Mais quand j'ai découvert le Château Carbonieux 1928, ça a été comme une...
Révélation.
Ouais, pire que ça. C'était un goût, mais c'était... Il y a toute une histoire. C'était tellement la région de Bordeaux que je me dis que comment on ne peut pas aimer les vins de Bordeaux en dégustant une bouteille comme ça. C'est vraiment la question qui te vient tout de suite à l'esprit.
Et pour conserver une bouteille à travers les âges comme ça, il y a la qualité propre du produit, la vinification, etc. Mais ils sont, j'imagine, remis en bouteille.
Tout à fait, ils sont vérifiés, elles sont retravaillées, elles sont rebouchées. Quelquefois même réétiquetées, hein, quelquefois. Ça se fait dans certains châteaux. Vous allez prendre une certaine quantité de bouteilles et vous allez refaire donc des millésimes comme ça. Après, j'ai eu l'occasion, avec mon métier, de pouvoir être nommé expert sur une vente qui s'était faite à Rungis, une très grande cave. Avec des Durfort Vivens de 1940 et 1942, je crois. Et on avait, en tant qu'expert, donc j'avais fait ouvrir ces bouteilles pour voir un petit peu comment elles étaient. Là, comme vous pouvez pas le voir, mais j'ai le sourire. Parce que c'est vraiment très plaisant. C'était surtout, imaginez que j'étais en train d'ouvrir des bouteilles qui étaient fabriquées par des femmes et non pas des hommes, parce que tous les hommes étaient partis à la guerre ou étaient prisonniers en Allemagne. Et ce qui fait qu'il y avait toute autour de cette dégustation une histoire qui va avec cette dégustation. Chaque arôme vous donne une idée de ce que pouvait être cette période. Ce qui fait que je me suis retrouvé aussi là, dans un espèce de...
D'univers.
Un univers.
Très particulier.
Ouais. Que, hélas, peu de gens que j'aurais aimé faire partager, mais que je ne peux pas, hélas, partager avec tout le monde.
Donc 82, voilà. 28 et 40.
40, 42, ouais, 53, 55. Là, des Pommerolles 55, j'ai fait des dégustations fabuleuses avec les Pommerolles 55, quoi. 53, pareil.
Bon, ben on pourrait parler de la rive gauche des heures et des heures.
Oui. Oh, j'ai envie de parler quand même de certaines propriétés dans cette appellation-là. Je vais vraiment en mettre une en valeur. Alors, c'est ce monsieur, s'il m'écoute ou si les gens le connaissent, le reconnaîtront en tout cas. Il s'appelle Roland Fontenot. Monsieur Fontenot était et est le propriétaire du château La Bécasse, qui était donc à Pauillac. Ces vignes ont été vendues parce que héritage fait que, donc division, etc. Et M. Fontenot a racheté un autre vignoble qui se trouve à Listrac. Donc à Listrac, en Médoc, bien sûr, qui fait partie de ces communes. Et donc ça s'appelle toujours le Château La Bécasse. L'appellation a changé puisqu'il est à Listrac. Il est en Listrac Médoc, mais c'est quelqu'un qui manipule merveilleusement bien le Cabernet, ce qui fait que goûter ses vins, il s'appelle donc le Château La Bécasse. Il faut savoir qu'il a gardé cette main de Pauillac tout en restant tout en étant aujourd'hui sur Listrac. Je pense que si j'avais un coup de chapeau à donner dans cette région, c'est à ce monsieur que je le donnerais.
Très bien, bien reçu. On lui transmettra. On espère qu'il aura l'occasion d'écouter ce podcast. Merci François, à bientôt.
Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Vous pouvez retrouver l'épisode 7 de Vin Divin sur toutes les plateformes de podcast et nous faire part de vos commentaires. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager et à le créditer de 5 étoiles. La semaine prochaine, nous irons un peu plus au nord et traverserons la Dordogne pour découvrir la rive droite du vignoble bordelais. Il sera notamment question des appellations Saint-Émilion, Pomerol et Fronsac. En attendant, portez-vous bien.